Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la scène du théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume estival, diffusé, vous le savez, le samedi matin et le dimanche soir, et consacré, mais oui, au Festival d'Avignon, avec Fabienne Pasco de Télérama, Fabienne Darche du Monde, Armel Elio Armelita du Figaroscope et Jacques Nerson de l'Obs, un festival qui aurait dû s'ouvrir cette semaine, le 3 juillet exactement, et se prolonger jusqu'au 23 juillet. Mais vous le savez, le coronavirus a eu raison de lui, comme il a eu raison de tous les grands festivals de théâtre et de musique, comme il met en péril le spectacle vivant et menace l'avenir de ses intermittents. Alors, pour rappeler la magnifique histoire de ce Festival d'Avignon et montrer aux comédiens, aux metteurs en scène, aux auteurs de théâtre, aux techniciens de la scène, qu'on pense à eux et qu'on les attend de pied ferme en 2021, j'ai choisi de consacrer cette émission à certains des plus grands spectacles qu'on a pu voir dans la cour d'honneur et qui sont tous, presque tous, disponibles en VOD et en DVD. Je veux parler du Soulier de Satin, de Médée, de L'École des Femmes, de Don Juan, d'Inferno et des Damnés. Dans le courrier de la semaine, Bernard Louatte, qui habite le nord de l'Ardèche, près d'Annonay, n'aime pas que certains critiques, qu'il appelle criticators, fassent la fine bouche devant les diffusions de pièces du français diffusées sur la 5. J'ai tout regardé, sauf Cyrano, et quand on voit les performances de Christian Heck dans Le fil à la patte ou Les rustres, on reste ébloui. Pareil pour Le misanthrope ou L'avare, et il ajoute que le film Molière, dont on parlait la fois dernière d'Ariane Nouchkine, est une pure merveille. À propos de ce film, Jean-Paul Martin de Roquebrune Cap-Martin n'a pas aimé que Fabienne Pasco dise à propos de Philippe Cobert qu'il incarnait Molière sans accent. Qu'a-t-elle contre l'accent du Midi, puisque Cobert est marseillais et que Molière a parcouru la France du Midi pendant ses années de formation et s'est nourri de la langue d'oc. Toujours le même parisianisme qui nous regarde de haut. Je crois pas que tu regardais de haut.
Pas du tout. Non, mais c'est Midi. Parce que Cobert, dans certains de ses spectacles, joue à merveille de son accent. Il n'y en a aucun, donc.
Claire, qui a bonne mémoire, tacle Jacques Nerson. Comment se sent-on, Jacques Nerson, quand on a crié haut et fort que la captation sur écran du théâtre ne devrait pas exister et que maintenant on s'extasie en regardant du théâtre en boîte? Comment se sent-on quand on voulait priver de spectacle ceux qui n'ont pas les moyens ou la possibilité d'aller au théâtre? Heureusement que beaucoup n'ont pas votre opinion, sinon notre confinement aurait été encore plus triste. Et Claire me remercie en revanche de continuer de promouvoir le spectacle vivant. En plus, ajoute-t-elle, vous enfoncez le clou, Jérôme, en disant que la captation peut rendre un spectacle encore plus intéressant. J'adore. Que peux-tu répondre à Claire, Jacques?
Que la Covid est passée par là, et que étant privé de théâtre vivant...
Et donc que tu as changé.
Non, c'est que je suis privé de théâtre vivant et évidemment je me console avec des captations, mais ça n'est quand même qu'un maigre lot de consolation à côté du théâtre vivant.
Eh bien, Jacques Nerson a tort. Mais que c'est bon, ajoute enfin Céline, de vous entendre vous disputer sur des spectacles. On a presque l'impression que les salles sont de nouveau ouvertes vivement. Eh bien oui, donc tout ça c'est prévu pour... Je l'espère en septembre, mais on se pose plein de questions, vous le savez, les critiques, mais aussi les auditeurs. Rien n'est encore résolu. On parle de jauge tellement dérisoire que ça rendrait, si on veut respecter toutes les préventions sanitaires, que ça rendrait quasiment impossible que le théâtre continue à exister. Soyons quand même un peu optimistes, non ? Je ne sais pas si vous avez un mot à dire les uns et les autres sur cette reprise quand même très menacée du théâtre à la rentrée.
Tout dépend de la reprise du virus. C'est lui qui va en décider. S'il y a une reprise, s'il y a une seconde vague, malheureusement, les mesures sanitaires seront prolongées. Et là, effectivement, pour le théâtre, c'est la catastrophe. On a mesuré dernièrement combien de places il resterait à vendre au Châtelet, qui fait à peu près 1200 places.
C'est 22% la jauge qui resterait à peu près.
Il n'aurait plus à vendre que 300 places. Comment voulez-vous ? C'est pas possible.
Moi, je suis optimiste. Le théâtre, ça fait plus de 3000 ans qu'il existe. Donc, tant qu'il y aura une table et puis des gens qui se mettront debout pour regarder le crétin qui sera monté sur la table, il y aura du théâtre. théâtre. Donc même mais si bien, ça s'arrête.
Pourquoi le crétin?
Il faut aussi des comédiens qui puissent...
Le crétin, parce que n'importe qui peut monter sur une table. Vous avez tout à fait raison, Armel. C'est pas le crétin.
Il faut aussi des comédiens qui puissent survivre aussi à cette situation dramatique. Hein. Ils perdent...
On a heureusement en France le régime de l'intermittence qui peut leur permettre un petit peu d'attendre.
Ouais. Oui, attendre, mais pas indéfiniment.
Tout est très relatif.
Ça rend inquiet de les voir si inquiets tout de même. À part quelqu'un comme Charles Berling qui dit on jouera deux fois. Il va jouer avec Muriel Mayette, ils joueront deux fois. Mais c'est dans le théâtre subventionné. Ce qui fait très peur aussi, c'est le théâtre privé. Parce que là, ils prennent des bouillons énormes. Qui va pouvoir se relever?
Survivre.
Et qu'est-ce qu'aura envie d'aller voir le public? C'est ça aussi la question. Parce qu'à la rentrée, il y aura les enfants au chômage, il y aura tout ça, il y aura la crise économique qui donnera peut-être pas envie aux gens d'aller beaucoup au théâtre.
Très bien, Darge.
Oui, je crois que c'est ça la grosse inquiétude, effectivement. Parce que pour le moment, la plupart des théâtres ont l'air d'être prêts à rouvrir en septembre. Mais la grosse interrogation, c'est effectivement celle du public. Est-ce que le public aura les moyens, avec la crise économique effectivement qui arrive là, qui ne fait que commencer malheureusement, et est-ce que les gens auront envie aussi de...
C'est à nous de leur donner envie.
Oui, c'est à nous de leur donner envie.
Après, faisons nos métiers.
Je peux témoigner que les trains sont pleins, par exemple. Donc, si les trains sont pleins, peut-être qu'on se demande aussi pourquoi les théâtres ne...
Vous avez vu qu'Arnaud Lagardère cherche à vendre de deux grandes salles au moins, si ce n'est plus. Il y a le casino et les Folies Bergères, et ça ne trouve pas preneur. C'est quand même très inquiétant.
Un rêve passe, on est au Festival d'Avignon. On est aussi dans le passé de ce légendaire, de ce mythique festival de théâtre. Et donc, on va commencer avec Le Soulier de Satin de Paul Claudel, qui était mise en scène par Antoine Vitesse, dont on célèbre d'ailleurs le 30e anniversaire de la disparition. C'était dans la cour d'honneur de ce Festival d'Avignon 1987. Mise en scène du texte intégral du Soulier. Et pour certains d'entre nous, en tout cas c'était mon cas, une expérience inoubliable. Avec cette nuit entière sous le ciel d'Avignon, de 9h du soir à 9h du matin. Je me souviens encore du petit café le matin sur la place de l'Horloge pour une épopée mystique que vous connaissez, cette grande et impossible histoire d'amour entre Prouès et Rodrigue, dont l'action, découpée en 4 journées, se déroule sur 20 ans à l'époque de l'âge d'or espagnol et sur la scène du monde, de l'Amérique à l'Extrême-Orient, de Mogador à Prague, de l'Espagne aux Flandres. Alors dans 2 jours, le 7 juillet, Lina va sortir le coffret de 4 CD du Soulier, dont la captation, il faut le préciser, n'a pas été faite à Avignon, mais au Théâtre National de Belgique en 88 pour une ultime représentation publique avec l'incandescente Ludmila Mikael. Dans le rôle de Prouès, Didier Sandre, qui était Rodrigue, Robin Renucci en Camille, mais aussi Anne Benoît, Valérie Dréville, Philippe Girard, Recep Mitrovica, Aurélien Recoin en ange gardien, Dominique Valadier et Antoine Vitesse lui-même en Don Pélage, scénographie, signée quand même Yanis Kokos, musique Georges Apergis, on ne se refusait rien. Et donc c'est disponible en DVD à la boutique ina.fr et en VOD sur Madeleine, qui est le site de streaming de l'INA. Fabienne, vous aviez passé comme moi cette nuit?
Et non, parce que j'avais accouché le 15 juin d'un fils prénommé Paul, en hommage à Paul Claudel, que j'adore. Donc, hélas, je n'y sais pas.
Mais oui, Paul, c'est vrai. Pour Claudel?
Oui.
Oh ben oui.
Et donc, je n'étais pas là, j'ai rattrapé à Chaillot, et j'ai surtout rattrapé, je dois dire, alors là que j'ai été éblouie par le coffret qui va bientôt sortir à l'INA, parce que j'ai regardé ça comme une série. Et finalement, je me suis dit que ce Claudel, il avait toutes les qualités, il arrivait à faire théâtre de tout bois, parce que dans cette œuvre qui raconte à la fois une histoire d'amour sublime, qui parle de la religion catholique, de la foi catholique, et aussi des affaires du monde, parce que c'est aussi une histoire...
Et du monde entier, absolument.
Exactement, c'est aussi une histoire politique. C'est les grandes conquêtes, c'est la lutte contre les musulmans, les protestants, enfin bref. Il raconte le monde, Claudel. Et ça, j'ai trouvé que c'était sublime, parce qu'il se détache absolument du réalisme, et ça, on peut compter sur Antoine Vitesse pour dépasser totalement le réalisme avec des comédiens d'une folle liberté. On découvre aussi, à travers cette mise en scène, à quel point ça a été un formateur d'école exceptionnelle. On a oublié qu'il avait su donner cette
liberté de jeu, c'est pas du tout réaliste, ce goût de l'invention. Finalement, là-dedans, c'est Ludmila Michaël qui est magnifique, mais qui sort quand même de la Comédie française, qui fait presque tâche par rapport à toute cette communauté d'acteurs
comédiens. Tâche comme ça, j'en veux bien tous les jours.
Oui, mais elle est toujours dans un lamento tragique. Elle n'a pas cette liberté de monter la bouffonnerie et l'humour.
Je suis pas du tout d'accord.
Elle est magnifique, mais pour moi, elle n'a pas la liberté des comédiens vitésiens que j'ai redécouvert.
C'est quand même mieux que Gianni Gastaldi.
Ah non, Gianni Gastaldi, c'est la musique incarnée. Elle joue dans la musique, c'est la poésie, la grâce.
Oui. L'autre Fabienne Darge.
Ah oui, là, je suis absolument pas d'accord sur Ludmila Michaël. Alors moi, il faut que je dise par honnêteté que je n'ai jamais vu Le Soulier en vrai. Ni à Chaillot, ni à Avignon. Non, j'ai découvert le Soulier quelques années après sur cassette, donc déjà en captation. Ça existait à l'époque en cassette, voilà, sur les bons vieux magnétoscopes. Donc ça avait déjà été... C'est dire quand même ce qu'est ce spectacle, hein, parce que là, après, tout ce dont on va parler après, et Dieu sait que c'est pas n'importe quoi, mais Le Soulier, ça écrase tout, c'est juste un sommet théâtral. Mmh. Et rien que de le voir en pas vrai, moi je suis comme Jacques, je préfère quand même très nettement le théâtre en vrai, mais même en captation, c'est absolument génial, c'est immense, c'est juste, d'abord parce que c'est une œuvre extraordinaire, c'est la seule œuvre du répertoire moderne qui puisse rivaliser avec Shakespeare, enfin, il y a tout, il y a tout, du plus intime au plus politique, au plus historique, enfin c'est...
Et au plus mystique.
On y reviendra peut-être, parce que moi je, par exemple, je suis pas du tout mystique. Donc, je crois qu'il faut le dire, que ça peut toucher, y compris des gens qui ne sont pas du tout...
Vitesse, on le sait, ne l'était pas. Hein.
Mais non,
la mystique claudélienne, elle se racine dans la terre, le désir, le sexe.
Puis c'est une mystique de la langue, de l'art, c'est vraiment de la métaphore. Les métaphores sont tellement géniales, à commencer par cette métaphore du soulier. Je veux dire, elle donne son soulier, donc elle est à jamais boiteuse, comme nous tous... Tous les humains, on est boiteux, c'est-à-dire qu'on a un pied qui va vers le haut, vers le ciel, et puis l'autre pied qui reste bien sur la terre, là, bien
mais
scotché.
Mais elle boite volontairement, c'est son sacrifice.
Oui,
pour se rappeler de sa faute aussi.
Alors, Armelle, est-ce qu'au moins Armelle a vécu comme moi cette nuit ?
Oh oui. Et moi, j'avais tellement peur, en fait, parce que je n'avais jamais vu Le Soulier de Satin en entier. J'avais vu chez Barreau.
Ben, ça a été monté parfois, mais pas en version intégrale.
Voilà. J'avais vu chez Barreau, intégrale mais coupée.
C'est-à-dire avec que Bouvier c'est quand même quand Barreau l'a monté la dernière fois.
Bouvier et Hélène Harrier.
C'était la première fois qu'on jouait la quatrième journée.
Voilà. Et donc, comme j'étais quand même peu sûre de moi et que je devais écrire pour le Quotidien de Paris à l'époque, je l'avais vu deux fois, puis en intégrale. Mais j'ai encore la chair de poule, le transport.
De la nuit complète.
De la nuit.
Moi, c'est pareil.
De ce petit matin où il y avait les martinets qui venaient saluer les comédiens. Une petite pluie fine qui était tombée ce matin-là. Pour moi, ça a été extraordinaire. J'étais transportée et Claudel me faisait peur. Et là, j'ai compris à quel point il charrie tout, il se mêle de tout, il connaît tout. Le protestantisme et l'islam, la science, les étoiles, la mer, les marées, tout. Et puis que cette histoire de l'être...
Et puis c'est une histoire d'amour universelle.
Une histoire d'amour magnifique. Et alors, c'est Yves-André Hubert qui l'avait tourné à Bruxelles. Ce qui manque là, une des scènes que j'avais adorées, c'est quand elle va donner son petit soulier et qu'elle allait à la fenêtre, à la grande fenêtre de la chapelle d'Avignon, et on la voyait donner sa petite chaussure à la Sainte Vierge dans ce cadre du palais. C'est ce qui manque un tout petit peu dans la captation, mais je l'ai trouvé magnifique parce que on est happé par la langue, on est happé par les acteurs. Moi, je les ai tous trouvés formidables. Ah oui. J'étais très émue par le fait qu'on les retrouve jeunes, qu'on en retrouve beaucoup, comme Elisabeth Catroux, par exemple, qui est morte depuis...
Enfin, Ludmila Michaël va bien.
Ludmila est là, Didier est là.
Ne soyons pas non plus trop...
C'est touchant, parce qu'il y a
ce qui m'a manqué dans la captation, évidemment, c'est les murs.
Les murs d'Avignon, oui,
et puis cette fenêtre.
Mais on a la mélancolie en tant que spectateur, alors, parce qu'il n'y a plus autant d'audace.
Je suis d'accord avec vous, il manque le vent, parce que c'est une captation qui a été faite dans un lieu fermé. Et
à Bruxelles.
C'est dommage. Le spectacle avait une beauté, une poésie...
Jacques aussi, vous l'aviez vu toute la nuit ?
Oui, bien sûr. Et je trouve que je retrouve pas tout à fait ça. Par ailleurs, je continue de penser, bon, je sais pas si j'ai raison, mais que c'est Camus qui disait qu'il y avait énormément de déchets chez Claudel, et je pense que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ce soit pas génial, mais je pense que Barrault avait raison de couper un peu là-dedans. Et je me souviens, avec plus d'émotion et plus de bonheur au fond, de la version de Barrault, qui, ça nous paraissait extraordinaire, je crois que ça ne durait que 5 heures.
Oui, si c'est ça.
Mais je la trouvais plus réussie. Et notamment parce que, quand même, les comédiens sont formidables dans cette version, mais Vitez est quand même quelqu'un de très cérébral. Et il y avait chez Barrault la dimension, si j'ose dire, païenne de Claudel, qu'il n'y a pas chez...
Sensualité,
la charnelle, c'est très sensuel.
Je ne trouve pas...
Y compris le personnage de l'annoncier.
Je pense... Non, l'annoncier, oui, le numéro de Pierre Vial, c'est pas, c'est, ça ne suffit pas, c'est pas ce dont je parle.
C'est pas cérébral du tout, c'est du cirque, c'est de la foi, c'est du
traiteur. Il faut quand même rappeler que cette pièce est la transposition de l'histoire réelle de Claudel, et notamment du sacrifice qu'il a fait deux fois en se séparant de cette femme pour qui il avait une passion, Rosalie Vatch. Et dans sa correspondance, il lui propose, c'est tout à fait comme Rodrigue
et Rouet. Qui est la Isée du partage de midi. Hein.
Aussi, oui, absolument.
Mais après le partage de midi, il a retrouvé Rosalie. Et alors donc, il lui propose dans sa correspondance à la vraie Rosalie, il lui propose la cérémonie du Suljuri. Une cérémonie japonaise en lui disant on n'a pas réussi à se marier dans cette vie, eh bien marions-nous pour nos vies ultérieures. Mmh. Mais il y a un peu de ça dans
Je vous interromps parce qu'on ne va pas faire toute l'émission sur Claudel. Ouais,
mais comme elle a Michael, n'est pas du tout Rosalie Vetch.
Sinon,
mais moi quand même, je voudrais dire juste un tout petit truc.
Si vous voulez, mais ne parlons pas que d'une seule pièce aujourd'hui.
Sur la durée, parce que c'est important, parce que la durée, elle peut peut-être faire peur aux gens. Et moi, je trouve que tout est dans la durée. Parce que quand on a un espèce de fleuve comme ça de 12 heures, y compris quand on le regarde, justement, il y a une autre écoute qui se met en place, une écoute où il y a du lâcher prise et où du coup, on reçoit plein de choses qu'on ne reçoit pas quand on voit un spectacle de 2 heures et où on est là un peu au taquet, en tout cas, à vouloir tout comprendre. Claudel le disait d'ailleurs, c'est ce que vous ne comprendrez pas qui sera le plus beau.
En tout cas, il y en avait un qui avait trouvé ça un peu long, c'était, vous le savez, Sacha Guitry, qui en sortant de l'intégrale de Souliers de Satin avait dit heureusement qu'il n'y avait pas la paire. Donc c'est disponible en VOD sur Madeleine et c'est le DVD que vous trouvez sur la boutique ina.fr. Malheureusement, je vous demande maintenant d'être un peu plus bref sur les pièces de cette même cour d'honneur que nous allons évoquer 6 ans plus tard en 93. Donc dans cette même cour d'honneur, où un orage d'ailleurs allait s'inviter à la première, ça aussi je m'en souviens, Jacques Lassalle, qui venait de succéder à Vitez à la tête de la Comédie française, montait Don Juan de Molière avec Andrei Séverine dans le rôle titre, François Chaumette, Roland Bertin, qui était Sganarelle, Catherine Sauval, Jean d'Outremet, Cécile Brune, Jeanne Balibar, qui était Elvire, et le futur patron du Français, Éric Ruff, qui jouait Don Carlos. Est-ce que ce Don Juan, vous avez, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, où il y a différentes versions, moi je l'ai trouvé sur le site de l'INA, mais il paraît que c'est pas exactement la même. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce Don Juan qu'avait mis à l'époque en scène Jacques Lassalle. Jacques.
Pour ce qui concerne Lassalle, c'est un metteur en scène dont j'admirerais beaucoup les mises en scène de Marivaux et de Goldoni, et que j'ai toujours trouvé peu à l'aise finalement avec Molière, qui est peut-être trop rustique pour quelqu'un d'aussi complexe que Lassalle. Et j'ai pas trouvé ce Don Juan spécialement réussi. Séverine m'a pas vraiment convaincu.
C'était très maquillé. Pour ce rôle, presque ultra maquillé.
Et puis vous parliez de Jeanne Balibar. Là, c'est là qu'on l'a découverte. Oui. Et là, en la revoyant dans Elvire, je l'ai trouvée terriblement mauvaise. Et alors là, pour le coup, Fabienne très 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 grandiloquente et pleurnicharde.
Fabienne, elle était... Darge.
Oui, alors là, je suis un peu étonnée sur Jeanne Balibar. Je vais commencer quand même par un petit préambule rapide. Quand on regarde une captation de théâtre, on est quand même face à un objet très hybride. C'est-à-dire qu'il y a la mise en scène elle-même qui a été faite et il y a sa captation. Et il y a quand même différents niveaux de captation. Et là, moi, j'ai été gênée. Moi, j'ai revu le spectacle quand il est repassé dans le cadre de la comédie continue de la Comédie française. Et j'ai trouvé la captation épouvantable. Donc, ça a beaucoup affaibli ce que je pensais de cette mise en scène.
Très bien, il y aurait pas, je comprends vos critiques aux uns et aux autres, il n'y aurait pas de captation, il n'y aurait pas de masque et la plume aujourd'hui,
mais ce qu'il faut
consacré
aussi,
au théâtre. Et deuxièmement, tout ce public qui rêve, on a vu le succès
mais
d'ailleurs.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'excellentes captations. Celle-là est un peu rude et affaiblit la mise en scène de Lassalle, qui est quand même très intéressante, je trouve, parce qu'elle est totalement sadienne, quoi. C'est, il a fait un Don Juan complètement sadique, sadien, cruel, sulfureux, mais pas du tout un jouisseur. En fait, c'est un Don Juan de misanthrope, quoi. Moi, j'avais trouvé Balibar extraordinaire, parce que cet homme, ce Don Juan-là, est quand même un...
Il est vrai que le rôle d'Elvire est très mauvais. Elle vient chaque fois pour pleurnicher, pour se plaindre.
Mais oui, mais là, on montre que Don Juan, c'est du mal. C'est pas le jouisseur libertin.
C'est pas un beau rôle de femme, je suis pas du tout d'accord avec vous.
Toutes les comédiennes se battent pour le jouer, même pour passer la scène au conservatoire. Oui, non, moi, j'ai été un petit peu en deçà, comme Fabienne, sur la mise en scène de Don Juan. Alors, je n'ai vu que par extrait, celle avec Jeanne Balibar. Mais moi, j'aime bien ce côté détonnant, ce côté qui choquait. Et moi, j'aime bien justement qu'elle ait ce côté à l'emporte-pièce. Ce qui m'étonne, c'est le Don Juan de Séverine, que je trouve un peu vieux pour le rôle, un peu méchant, un peu éteint, vous dites ? Oui, un peu éteint, un peu trop vieux. Je vois pas bien ce qu'il veut jouer. Sûrement un philosophe, sûrement avec ce recul, cette distance, sûrement un salaud, ça c'est sûr aussi. Mais je comprends pas bien quel est l'enjeu de cette mise en scène de Don Juan, ni ce qui a apporté Jacques Lassalle.
C'est un homme glacial qui est en guerre contre le monde entier. C'est un misanthrope absolu. C'est pas très agréable.
Armel. Alors, je ne l'ai pas revu en entier dans la version Balibar. J'ai revu la version avec Françoise Gillard et
ça reste
Francis,
la mise en scène de la salle. Hein.
Mais c'est la mise en scène. Et puis j'ai revu quand même beaucoup de choses. J'ai même vu un film sur le spectacle. Puis j'avais vu le spectacle avec cette première représentation interrompue complètement avec la foudre qui tombe.
C'était incroyable.
On aurait dit qu'elle répliquait
du ciel.
Au début, on s'est demandé si ça faisait pas partie de la mise en scène.
Qu'elle répliquait
juste au moment où
c'était
extraordinaire. Du coup, on est revenu d'ailleurs.
Et donc, pour moi, quand même, je comprends vos réserves, mais ça reste quand même un grand travail avec des acteurs qui.
La fin est totalement anodine et banale, quand même.
Moi, ça ne me gêne
pas. Ce qui fait du commandeur et de la mort de Don Juan, c'est misérable.
C'était le Don Juan de Molière de Jacques Lassalle, si j'ose dire, de 1993. Et donc, en 2000, le même Jacques Lassalle était revenu dans cette cour d'honneur pour présenter Médée de Ripide, qu'on trouve très facilement chez Arte Vidéo. C'était avec Isabelle Huppert, dans le rôle de, vous le savez, de l'infanticide. Anne Benoît, qui jouait la nourrice. Jean-Quentin Châtelain, qui était Jason. Jean-Philippe Puy-Martin, qui était Égée. Emmanuelle Riva, incarnait à elle seule le cœur. Et Bernard Verlet était Créon. Isabelle Huppert campait, il faut dire, une monstrueuse, douloureuse, incroyable Médée que Jason, pour qui elle avait trahi son père et tué son frère, avait abandonné. Médée qui, pour se venger, va tuer les deux fils qu'elle a eus de Jason. Et moi, je me souviens encore, puisqu'on est tous dans les souvenirs aussi d'Avignon, de Isabelle Huppert plongeant la tête dans une mare d'eau froide. Et certains soirs de Mistral, vraiment l'air était froid. Hein,
Très plus froid.
Je la voyais tous les soirs se mettre la tête, les cheveux dans cette mare d'eau froide. Et je disais quand même, chapeau l'actrice Armelle.
Même chose pour Jean-Quentin Châtelain d'ailleurs, parce qu'il était obligé d'aller beaucoup dans l'eau.
Il se faisait emboîter par la salle.
Oui, mais c'était pas de sa faute. Non, mais c'était pas de sa faute. C'était de la faute de Jacques Lassalle.
C'est dans Euripide que les spectateurs rient.
Non, c'est dans Euripide qu'il y a un mélange des genres.
Laissons terminer Armelle.
Quel bouffon. Et c'est ce qu'a bien montré Lassalle.
Les acteurs ont beaucoup souffert sur cette mise en scène, vous le savez très bien. Elle est quand même extrêmement étonnante, Isabelle Huppert. Anne Benoît, qu'on avait vue aperçue dans le soulier de satin, qu'on la revoit là, elle est extraordinaire aussi en nourrice. Et la grande Emmanuelle Riva qui fait le chœur. Il y a quelque chose sur les voix dans cette mise en scène, un travail musical quasiment sur
pour un texte, il faut quand même le rappeler, absolument effrayant.
Très violent, effrayant, atroce.
C'est d'une violence.
Et elle arrive à être épouvantable tout en restant profondément humaine. Et la réalisation de Don Kent, je trouve, ajoute beaucoup.
Oui, alors c'est réalisé par Don Kent pour une captation.
Il avait eu le set d'or, le set d'or de la meilleure
Jacques,
réalisation.
Qu'est-ce qui vous choquait dans ce que disait Armel? J'ai pas très bien compris.
C'est Jean-Quentin Châtelain que j'ai trouvé complètement ridicule. Et encore une fois, je vous rappelle que les gens dans la salle se marraient.
Oui, mais peu importe.
Mais non, pas peu importe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le spectacle.
Il faut expliquer d'où venait le trouble. double.
Mais tout simplement, en grande partie de son jeu et de son accent suisse. Il avait une façon d'appeler Mayday, Mayday, comme ça, qui faisait tort de rire tout le monde.
C'est un très grand acteur, c'est un très grand acteur.
Une tragédie, dans une tragédie comme celle-là, c'est un peu embêtant. Non, j'ai adoré Isabelle Huppert, que j'ai. De toute façon, c'est une immense actrice, c'est évident. Mais malheureusement, je trouve que la mise en scène n'était pas brillante du tout et son partenaire était vraiment très mauvais et très mal distribué.
Fabienne,
moi, je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, l'intérêt de cette mise en scène admirablement filmée par Don Kent, parce que là, on a un vrai plaisir, c'est presque comme un film, je trouve. Quand
on est à la frontière de la captation et du film.
Exactement.
Bien sûr,
Donc, la nouveauté du spectacle, et moi, j'ai redécouvert Médée à travers cette Médée d'Euripide, c'est justement, Jacques Lassalle nous montre que Euripide, qui est le dernier des grands tragiques grecs, il mélange déjà le quotidien, le prosaïque avec le tragique. Et finalement, l'interprétation qui faisait rire de notre Jason, elle est voulue aussi. Elle fait partie de ce côté terrien, de ce mélange des genres qu'a voulu insuffler Jacques Lassalle. Là, alors si vous y allez par là, la traduction, moi je n'ai pas beaucoup aimé la traduction de Pierre Judet de la Combe à l'époque, et en la réécoutant, on parle de salaud, de salope.
Oui, je suis d'accord.
On se demande ce que ça fait dans Euripide.
Moi, j'aime pas cette traduction.
Mais ce mélange des genres dans les décors sublimes avec cette eau.
Décor très simple, hein.
Oui, très simple, mais magnifique. Et puis alors la performance d'Isabelle Huppert, quand elle gueule vraiment, quand elle est prise dans ses, on se dit mon Dieu, sa voix va casser. Mais après, elle a ces mélanges de douceur et comme le disait Armel, elle donne une humanité à la fureur de Médée et cette Médée, une Médée féministe. Parce que pourquoi elle tue ? Elle revendique son statut de femme et elle ne refuse d'être une femme trompée. Elle est féministe avant l'heure et ça, Isabelle Huppert le montre à merveille.
Fabienne Darge.
Oui, ce qui est très beau dans cette mise en scène. D'abord, il faut dire que c'est effectivement un objet DVD de théâtre, là, pour le coup, très réussi. Et là, pour le coup, ça apporte quelque chose au théâtre. Ça ne lui retire pas, c'est-à-dire les gros plans qu'on n'a pas quand on est dans la cour d'honneur. Là, on voit les acteurs, leur visage, les moindres frémissements. Et ça, quand c'est comme ça, pour le coup, la captation de théâtre, c'est magnifique. Et ce spectacle, pour moi, il aurait pu être absolument parfait, magnifique.
Si.
Mais il y a quand même, je trouve, un certain nombre de choses qui le plombent. Alors, Huppert, c'est un de ses plus grands rôles. Là, c'est quand elle travaillait vraiment, quand elle était, parce que ces dernières années, je trouve qu'elle travaille plus trop. Mais bon, là,
la pauvre, elle jouait à la ménagerie de verre veille du...
Oui,
on n'aura pas eu le temps vraiment de savoir ce que ça...
Ah ben, on l'a vu quand même.
Oh ben, elle était très bien, moi,
je trouve pas. Mais bon, bref, là, en l'occurrence, on parle d'un rôle dans lequel elle a été absolument magnifique. Mais, effectivement, moi, je trouve que la traduction...
Et ce Jason Genevois, ça vous gênait pas ?
Et quant à Jean-Quentin Châtelain, qui est un acteur que j'adore, immense acteur, là-dedans, le pauvre, il est rendu ridicule, je suis
d'accord. Mais Jason est un être ridicule.
D'ailleurs, on ne peut pas jouer la littéralité du ridicule, on est au théâtre, donc il faut le traduire, le ridicule. Et je trouve que dans cette mise en scène, c'est vraiment les femmes qui tirent leur épingle du jeu, parce qu'il faut quand même dire aussi que Anne Benoît et Emmanuelle Riva sont absolument magnifiques.
Oui,
Emmanuelle Riva, notamment, qui joue le cœur à elle seule. Là, on a l'essence de la tragédie, je trouve, dans ce qu'elle fait. C'est très, très beau. C'est quand même globalement très beau, mais c'est dommage, ça aurait pu être... une grande chose, et pour moi, c'est affaibli, par...
C'est donc Médée d'Euripide disponible chez Arte Vidéo dans une très bonne qualité, effectivement, de captation. C'était une mise en scène signée Jacques Lassalle, et c'est dans la cour d'honneur en 2000. Vous écoutez bien le Masque et la Plume, masque estival, masque consacré au Festival d'Avignon, ou en tout cas, au théâtre tel qu'on l'a aimé dans ce festival qui, vous le savez, n'a pas lieu cette année, mais reviendra l'année prochaine. En 2001, donc l'année d'après Médée, Didier Bezas, disparu le 11 mars dernier, mettait en scène dans cette même cour d'honneur l'École des femmes de Molière, qu'on trouve toujours chez Arte Vidéo, avec Pierre Arditi dans le rôle du vieil Arnolf qui jette son dévolu sur sa pupille Agnès, jouée par Agnès Sourdillon. Il l'enferme pour mieux l'épouser alors qu'elle aime le jeune Horace, qui était joué par Olivier Ithier. Bezas avait d'ailleurs habillé Arnolf avec la soutane de Tartuffe et présenté la pièce sur un simple plateau en bois, dans un décor pour le coup très minimal. Fabienne Darge.
Ah oui, alors ça m'a fait très plaisir de revoir ce spectacle. Je trouve que ça a vraiment été une des grandes mises en scène de Didier Bezas. vraiment un des spectacles qu'il a le mieux réussi avec cette école des femmes très très noire, enfin en noir et blanc, mais une vision quand même très noire là aussi, comme celle de la salle sur Don Juan. C'était peut-être un peu l'époque de revisiter Molière. En le repeignant en noir, c'est un parti pris, alors qu'il y a une principale faiblesse, c'est que le comique est quasiment absent, mais c'est extrêmement tenu, là aussi. Le décor est quand même extraordinaire, parce que les acteurs jouaient sur cette petite plateforme.
Oui,
j'ai vérifié du coup qu'il faisait 36 mètres carrés, alors que la cour, si on utilise tout le plateau de la cour, fait 400 mètres carrés. Donc c'était même limite dangereux pour eux. Ils étaient vraiment dans une sorte de... Et on ressent cette inquiétude, à la fois celle d'Agnès évidemment, mais évidemment celle d'Arnolf aussi, cette inquiétude, c'est cet homme qui ne sait plus ce qu'est sa masculinité, parce qu'il est, menacé dans son identité même, il ne sait pas ce qui lui arrive, quoi. Par ailleurs, il y a dans ce spectacle une merveille absolue qui est Agnès Sourdillon, qui est, pour moi une immense actrice qu'on ne voit plus assez.
Qui n'a pas réussi à me faire regretter Isabelle Adjani en son rôle d'Agnès.
Non, ça c'est sûr que... Voilà. Parce que c'est une Agnès totalement singulière, qui explose tous les codes de la jeune première, totalement apsychologique. Je m'arrête là. Il faut que je m'arrête, mais...
Agnès Sourdillon, elle avait quelque chose de particulier, ce qui était le comique. C'est elle qui portait le comique du spectacle. Arditi était effectivement très sérieux, très noir, très...
Mais enfin, Adjani avait 18 ans quand elle l'a joué, Agnès Sourdillon, elle avait 30 ans, là, quand
absolument,
même, hein.
Mais donc, ça passait quand même, bien que ce soit...
Mais la magie, c'était aussi l'âge qui correspondait.
Bien sûr, mais il y avait quand même...
Ça a aussi été un des meilleurs rôles d'Arditi, hein, au
Formidable. Mais effectivement, il était extrêmement
avec
noir.
Avec Adjani, c'était Michel Aumont, dans mon souvenir, hein.
Enfin, je pense que Didier Bezos a vraiment magnifiquement utilisé la cour et compris qu'il n'avait pas intérêt à disperser le spectacle sur la scène qui est si large. Et il y a eu ce petit dispositif très réduit volontairement qui concentre le regard.
Le très minimaliste.
C'était Philippe Marioche, je crois, qui avait conçu ce décor qui était vraiment remarquable. C'est un petit peu ce qu'avait fait Jean-Pierre Vincent avec les Fourberies de Scapin, qui là aussi avait réduit la scène. Et à mon avis, c'est très intéressant parce que ça fait un effet de seringue et le spectacle n'en jaillit que plus fort et atteint d'autant mieux tous les spectateurs de cette immense salle. Donc c'est un très très beau
Fabienne
spectacle.
Pascoe.
Alors moi je suis pas d'accord avec vous parce que à part Arditi et Sourdillon que j'ai adoré, je n'ai rien compris à cette mise en scène. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, et j'ai bien observé encore une fois en regardant le DVD, il y a un dispositif, ils sont en haut d'une tour, Arditi, Arnolf est en haut d'une tour, et tous les personnages le regardent sans cesse. En fait, ce qu'avait voulu Didier Bezaz, je m'en souviens parce que je l'avais interviewé à l'époque, c'était nous expliquer que les autres acteurs lui faisaient rejouer le drame comme pour s'en libérer. Et effectivement, ils le regardent, ils espèrent qu'il va changer tout le temps. Et je n'ai rien compris à ce que voulait faire Didier Bezaz. Pour moi, c'est d'une complication. Donc, je préférais ne pas comprendre ni pourquoi il était en haut de cette tourelle. Je trouve ça vraiment stupide, personnellement. Je vois pas... Même si ça resserre l'action,
on voit les clochers d'Avignon, on entend des cloches tout le temps.
À quoi ça sert de resserrer l'action alors que le drame...
Plateau. Mais en fait, vous n'avez pas eu de chance en l'interviewant parce que visiblement, il vous a embrouillé les choses. Parce que quand on n'a pas interviewé, quand on ne sait pas ce que vous racontez, on comprend très bien.
De même que
je n'ai
pas compris pourquoi il habillait Arnolf en curé.
Bien sûr. Et en fait, Arnolf, il a cette valise, il est fou parce qu'il a deux demeures, il a deux identités, monsieur de la Souche, Arnolf, deux maisons. Il a cette valise. Qui a deux maisons perd la raison.
Bon, non, c'est trois maisons en principe.
Oui, enfin, écoutez, là, ça fait deux. Et puis tous ces personnages qui le regardent. Bon, peu importe, j'ai pas compris ça. Mais je trouve qu'Arditi, alors là, j'ai toujours de grands regrets avec Pierre Arditi parce que c'est un de nos plus grands comédiens pour moi. Et là, ce qui montre de la passion. La scène d'amour, qui est en même temps terrible parce qu'il impose plein de choses à cette pauvre Agnès, c'est un vrai tyran.
Parce que là, c'est pas de l'amour, c'est de l'obsession.
Oui,
mentale,
mais il l'aime quand même. Et il arrive à montrer qu'il l'aime profondément.
Oui, il l'aime. C'est ça que montrait Arditi qui était formidable.
Mais il l'aime comme un homme pervers.
Qui se détruit dans le boulevard et dans des séries télé. Ça aurait pu faire un lire magnifique.
Mais c'est pas fini.
J'espère qu'il va le faire.
J'ai
trouvé sublime d'amour, de détresse. Je l'ai trouvé magistral.
Armel.
Ah oui, je suis d'accord avec Fabienne. Il est extraordinaire. Agnès Sourdillon aussi. Moi, je l'ai vu sans complication aucune. Cette captation encore donne week-end. Oui. Donc j'ai écouté, j'ai regardé, je les ai vus de près, j'étais heureuse. Et c'est vrai que Pierre Arditi, là-dedans, il est comme dans quelques films de qu'il a tourné avec René, par exemple. Il est exceptionnel, c'est un immense acteur. Et bon, il se distrait de temps en temps en faisant des choses moins fortes, mais ça reste un de nos plus grands acteurs.
Joue Shakespeare.
Sa carrière est loin d'être finie, Fabienne.
J'espère.
L'école des femmes de Molière, que montait cet homme merveilleux qui était Didier Besas, oui. Patron notamment du théâtre de la Commune, et qu'on trouve donc chez Arte Vidéo, filmé par Don Kent. En 2008, Romeo Castellucci, artiste à l'époque associé du festival, alors dirigé par Hortense Archambault et Vincent Baudrier, présent dans la cour d'honneur Inferno, une version très personnelle de la première partie de la Divine Comédie de Dante, écrite au moment même d'ailleurs où les papes s'installaient dans le palais d'Avignon. Et l'enfer, ce sont ici des chiens, je dirais même des molosses, qui hurlent à la mort sur le plateau noir et se jettent sur Castellucci, ou cet homme en slip qui escalade, ça c'est une image assez inoubliable, la façade intérieure du palais. À la fin, j'ai toujours pas compris, longtemps après, Andy Warhol qui s'extrait d'une voiture calcinée. Et puis je me souviens aussi d'un gros ballon rouge qui tombait des toits en passant ensuite de main en main.
Et d'un piano à queue en flamme aussi.
Spectacle en DVD chez Arte Vidéo et en VOD sur Vimeo. Jacques.
Bah alors là, je me souviens effectivement de quelques belles images que j'ai revues, bon, mais je n'ai jamais compris le lien qu'il y avait réellement avec Dante. Et c'est un spectacle que j'ai trouvé totalement creux, comme pas mal de spectacles de Castellucci d'ailleurs. Pour moi, c'est le vide absolu, une imposture totale.
Fabienne Pascaud.
J'aime bien la radicalité de Jacques. Non, moi je suis plutôt... j'aime beaucoup ce que fait Romeo Castellucci, ce qui me donne toujours à réfléchir. Ce spectacle-là m'avait donné à réfléchir, effectivement. Je trouve pas là, pour le coup, que c'est un spectacle qui doit se voir en commun, dans la collectivité, ensemble, en présentiel, comme on dit maintenant. Voir ces images qui étaient fulgurantes quand on les voyait de son petit siège de la cour d'honneur devant son écran télé, c'est vrai que ça ne rend pas toute la magie du spectacle, de ces images. C'est quand même magnifique quand Romeo Castellucci, le metteur en scène, arrive au début, les seules paroles du spectacle, c'est « Je suis Romeo Castellucci ».
Ah, c'est magnifique.
Et il se donne en pâture aux animaux, aux chiens, aux chiens qui vont venir le dévorer.
Ah, il faut dire qu'il a une tenue. Hein,
oui,
voilà. Mais ça, c'est la métaphore presque christique de cet inferno. Il se donne en pâture aux spectateurs.
Le Christ n'a pas été dévoré par les chiens.
Il a fait d'autres spectacles. Là, autour du Christ, Romeo Castellucci,
oui, mais,
c'est un mystique.
Le Christ là, n'avait pas de protection. Hein.
Non. Mais là, ce qui est beau, c'est qu'il montre avec une infinie douceur l'horreur de vivre, avec tous ces personnages qui meurent, qui tombent, toutes ces catastrophes inhumaines, cette mort omniprésente, ces enfants un peu inquiétants qu'on
dans
voit dans des cages de verre.
Ils ne sont pas inquiétants, les enfants.
Ça fait quand même un peu peur.
Ils sont livrés à eux-mêmes, les pauvres.
Il arrive avec quelques images.
Moi, j'ai peur qu'ils aient eu peur. Je me demande...
Je trouve que c'est un spectacle éminemment poétique, mais là, c'est difficile de s'en rendre compte quand on ne le vit pas comme on peut le voir. Le théâtre, c'est aussi dehors, ensemble. Là, j'ai pris de plaisir avec toutes ces cassettes où j'ai pu retrouver toute la magie d'Avignon. Là, je trouve que le spectacle, même bien filmé, on ne retrouve pas l'émotion qu'on a pu avoir dans la cour.
Ah si, il y a beaucoup de choses que j'ai mieux comprises que quand je l'avais vu à Avignon. Et alors, l'homme qui grimpe, là, rien que cela, c'est très bien filmé. C'est encore Don Kent, vous me direz qu'il...
c'est un magicien,
il
Don Kent.
Prend tout, mais il sait filmer le théâtre. Et cet homme s'appelle Antoine Le Ménestrel. Il est extraordinaire quand il grimpe. Comme
oui, mais
ça,
quel sens ça avait dans Inferno?
Alors,
j'ai du mal à comprendre.
Moi, je vais dire quelque chose de sincère. Je ne connais pas assez la Divine Comédie pour avoir compris tout ce qu'a voulu raconter Castellucci et tout ce à quoi il fait allusion. Comme vous le savez, en Italie, on apprend ça à l'école primaire et puis jusqu'à la fac, on fait de la Divine Comédie comme nous, on apprend les fables de La Fontaine.
Absolument.
Donc, je pense qu'il y a plein d'allusions qui nous échappent. Ça reste un spectacle très intéressant de Castellucci, et puis avec cette espèce d'intelligence du public. Par exemple, quand il jetait ce grand voile sur la salle,
c'était quand même...
les gens comprenaient tout de suite qu'il fallait le passer derrière, et qu'il fallait que ça remonte derrière. Non, mais c'était merveilleux, c'était inclure le public d'une façon étrange et inquiétante.
Fabienne Darche.
Peut-être que Castellucci, c'est comme Claudel, finalement, et que c'est ce qu'on ne comprend pas qui est le plus beau. Moi, j'ai fini par me dire ça avec Castellucci.
Ça, non,
mais je suis d'accord avec Fabienne Warhol, vraiment... on ne comprend pas si bien faire.
Ça parle moins, mais c'est les images et le son qui parlent. Parce qu'on parle toujours des images chez Castellucci, mais le son a aussi une énorme importance. Alors, c'est vrai que c'est un faiseur de théâtre. Castellucci, c'est quand même un des plus grands qui est émergé ces dernières années. Non, j'aurais pas dû employer ce terme, alors. C'est un artiste. C'est un artiste de théâtre. Je crois que le terme lui va mieux. Qui est quand même très proche des arts plastiques, de la performance. Donc c'est vrai que c'est arrivé dans ce moment d'Avignon où Baudrier et Archambault nous ont quand même ouvert le regard sur des formes effectivement différentes.
Mais il était arrivé avant, Castellucci, vous vous souvenez du très beau spectacle qu'on avait vu?
Oui, mais là c'était dans la cour.
C'est Archambault et Baudrier qui en ont fait
l'artiste associé. Mais
donc c'est vrai que le lien avec la Divine Comédie était tout sauf évident. Moi je ne vais pas dire que j'ai compris plus que les autres, absolument pas, mais c'était quand même des visions de l'enfer qu'on pouvait recevoir directement pour le coup, je pense, avec
j'ai préféré le spectacle. Vous vous souvenez du spectacle d'André Engel Del Inferno, justement.
Allez,
c'était quand même beaucoup plus fort.
On parle
d'un dernier spectacle, et donc là c'était Inferno de Castellucci, et c'est encore une fois disponible chez Arte Vidéo et en VOD sur Vimeo. Et donc terminer cette émission avec un spectacle de 2016 qui a fait grand bruit à l'époque, l'adaptation par Ivo Van Hove et la troupe de la Comédie Française des damnés de, pas le film de Visconti, mais son scénario. Spectacle disponible sur le site de l'INA, l'histoire, vous le savez, de la famille Eisenbeck à l'heure du triomphe des nazis en Allemagne, avec sur la scène des flots d'hémoglobine, des scènes, il faut dire, d'une grande violence, un usage permanent de la vidéo, avec cette caméra portée qui suit tous les comédiens, une musique assourdissante, des cadavres placés l'un après l'autre dans des cercueils, avec enfin Denis Podalydès, que Armel a aimé parce qu'il était totalement à poil, Guillaume Gallienne, Sylvia Berger, Éric Genovese, Alexandre Pavlov, Elsa Le Poivre, Loïc Corbery, Didier Sandre, encore un habitué de la cour. Il y a 4 ans, le masque était tout à fait partagé. Je vous demande, de pas trop longuement, de me dire ce que vous pensez aujourd'hui de cette version de Ivo Van Hove, des damnés de la cour d'honneur. Armel.
J'ai beaucoup aimé revoir ce spectacle que j'avais vu 2 fois à Avignon et ensuite à Paris. Et à Paris, salle Richelieu, c'est trop petit, c'est trop. Il y a des images qu'on voyait pas, il y a tout ce chemin jusqu'au cercueil. Et alors, il est sadique, Ivo Van Hove, parce que il y a toute cette ces gens qui meurent et qu'on enferme dans les cercueils et on les voit hurler sans qu'on les entende dans leur cercueil, c'est terrible. Et ce que j'ai apprécié, alors c'est un peu bêta ce que je dis, peut-être que je répète, mais c'est de les voir jouer de si près. Je suis époustouflée. Et j'ai mieux compris la mise en scène, j'ai mieux compris le travail entre eux. À Jardin, ils s'habillent, ils se changent, ils se transforment.
C'est là où ils se maquillent, voilà. En fait. C'est comme des...
Et puis le jeu
et
au
à droite,
milieu,
c'est les,
et puis ensuite,
c'est les cercueils.
On va mourir là-bas. Et j'ai très bien suivi. Et je l'ai trouvé exceptionnel. Quand on voit Elsa Le Poivre, on se dit, mais elle est hollywoodienne, Elsa Le Poivre. Elle est belle, elle est
hollywoodienne,
magnifique.
Hollywoodienne, Shakespeare. Ah
oui, non, tu vois, elle pourrait tous faire du cinéma, quoi. Puis ça m'a beaucoup émue de retrouver Rodrigue, le jeune Didier Sandre, et puis le Didier Sandre aux cheveux gris, avec un visage qui s'est durci, qui une vie
qui
a été...
Oui, qui joue le père, hein, qui joue le patriarche. Oui.
Et j'ai même compris, ce que je n'avais pas compris à Avignon, je dois le dire, le moment où à la fin, je ne le raconte pas, parce que si vous n'avez pas vu le spectacle, il faut le voir, le moment où il y a une scène d'une très grande violence... À l'encontre du public.
Il n'y en a pas qu'une, hein. Oui, absolument.
Ouais. Oui, mais
et alors, moi, et le public savez, est pris à partie.
La deuxième fois où j'ai vu le spectacle à Avignon, c'était le soir du 14 juillet, où il y avait eu la tragédie de Nice. Et donc, ils ne sont pas venus saluer. On a entendu une voix de régisseur qui nous disait « Sortez, mais ne restez pas sur la place ». Tout le monde a rallumé son portable et tout le monde éclatait en sanglots. Je me souviens, il y avait Sophie Marceau, juste devant moi, qui s'est mise à pleurer comme une enfant, parce qu'on était bouleversé par ce spectacle et bouleversé par la réalité atroce qui nous rattrapait.
Et ce sang qui coulait sur la scène de la cour d'honneur, alors qu'il coulait aussi à Nice. C'est... Fabienne,
oui,
d'Arge.
Alors moi, je trouve que c'est quand même un spectacle d'une très grande force. C'est sans doute le spectacle le plus fort quand même qu'il y a eu ces dernières années dans la cour. Et je trouve qu'en plus, la captation, là encore, de Don Kent, ben, voilà, c'est vraiment le grand filmeur de théâtre d'aujourd'hui.
Qui est une mise en abîme, parce que...
Voilà, c'est comme une mise en abîme, c'est ce que j'allais dire. C'est une mise en abîme totale, parce que comme on est dans une forme théâtre-cinéma, là, très poussée, déjà, avec Ivo Vanov, c'est vrai que la manière dont Don Kent la filme, dont il joue avec les images d'archives, il y a beaucoup d'images d'archives dans le spectacle, c'est qui commence en 1933, donc au moment de l'incendie du Reichstag à Berlin, et donc entre ces images-là, les images qui sont filmées sur le plateau, les images que fait Don Kent des comédiens, alors là, effectivement, ils sont éblouissants, et du coup, là, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a les visages de près, et c'est là, pour le coup, le spectacle m'a paru encore plus fort, alors que moi, je l'avais déjà trouvé. Je fais partie des gens qui ont trouvé ce spectacle exceptionnel. C'est quand même magistral. Il y a un savoir de théâtre derrière ça. C'est à la fois les Grecs, c'est à la fois Shakespeare, c'est à la fois le théâtre japonais. Comment ils vont des loges à la mort, comme ça, ces coups de gong. C'est pas que du cinéma au théâtre. C'est du grand théâtre qui, en plus, inclut le cinéma pour en faire une forme opératique quand même assez géniale, quoi.
Jacques.
Je suis tout à fait de cet avis. C'est-à-dire que moi, j'avais eu beaucoup de réserves sur le spectacle quand je l'ai vu à Avignon. Mais notamment par rapport au scénario de Visconti lui-même. J'admirais déjà la mise en scène, j'admirais déjà beaucoup la mise en scène de Vanov, que je trouvais supérieure au film. Mais là, c'est encore supérieur au spectacle. C'est une des rares fois où je trouve une captation justement
c'est
meilleure.
C'est prodigieux.
Alors, je crois qu'il y a une raison. Il y a un filmage tout à fait prodigieux. Il y a une qualité d'éclairage incroyable, mais une beauté d'image tout à fait digne du cinéma. Et puis, il y a un avantage, c'est que comme les acteurs étaient sonorisés, eh bien, du coup, leurs voix nous paraissent naturelles. Oui. On n'a pas cette impression qu'on a souvent par rapport à une captation de gens qui crient.
Oui.
Eh bien, pas du tout, là. Oui. Et donc, du coup, on est dans une proximité avec eux.
Il faut ajouter une occupation totale de l'espace de la cour d'honneur.
Et c'est beauté. Et les images se fondent parfaitement. Les images vidéo et les images du plateau se fondent très, très bien. C'est encore mieux qu'à Avignon. Oui. Non, c'est magnifique.
Fabienne Pascaud.
Oh, moi, je suis d'accord avec mes camarades. Je trouve ça admirable. Interprété, c'est un bel exercice de mise en scène et notamment du mélange de la vidéo et du théâtre dont on se moque parfois, on en a ras-le-bol nous autres de voir sans arrêt la vidéo, le théâtre, enfin ce tic qu'ont maintenant les metteurs en scène, et là on comprend tout ce que la vidéo peut apporter à un spectacle de théâtre. Moi j'ai quand même été un peu en deçà sur le texte parce que déjà que le film du Visconti a beaucoup vieilli, mais là je trouve que le c'est admirablement joué, admirablement mis en scène, mais le texte est quand même un peu caricatural, quoi. Bon, j'ai été...
Sur le fond, oui.
C'est pas grand-chose. Mais c'est un admirable spectacle et ça se regarde.
C'est pas un texte.
Et puis, on entend la voix d'Hitler dans la cour d'honneur, ça fait quand même froid dans le dos.
Ah oui. Eh bien, on l'entendait déjà chez Béjart.
Ce sont les derniers...
J'ai vu dans le documentaire. Oui.
D'après Visconti, monté par Ivo Vanov dans la cour d'honneur en 2016, et c'est disponible sur le site de l'INA. Et je signale, pour conclure cette émission, qu'il existe effectivement ce documentaire Avignon, cour d'honneur et champ de bataille, documentaire de Michel Viotte, qui est inclus dans le coffret DVD 60 ans du Festival d'Avignon chez Arte Vidéo, coproduit par la Compagnie des Indes, avec plein de témoignages passionnants, je trouve, dont ceux d'Alain Crombec, Bernard Fèvre-Darcier, tous ses patrons successifs du festival, Vincent Baudrier, Hortense Archambault, Olivier Py et... Lui n'était pas le patron, sauf dans notre cœur, notre cher et regretté Jacques Ralit. Voilà pour cette émission un peu étrange, consacrée au Festival d'Avignon, à sa cour d'honneur, aussi un peu à nos regrets évidemment, mais aussi à nos espoirs, parce que ce théâtre ne veut décidément pas mourir. On termine avec des conseils, pardon Jacques, ça sera des conseils de captation, de vidéo, de VOD, et pas simplement de spectacle direct. On commence avec Fabienne Darge.
Alors, trois conseils rapidement, alors du coup. Le Mahabharata de Peter Brook, captation. Pas le film qui a été fait, mais la captation, spectacle historique d'Avignon à la carrière Boulbon. Ça, c'est... Alors, un livre sur l'histoire d'Avignon, celui d'Antoine Debecq et Emmanuel Loyer, parce que c'est bien de se retourner sur l'histoire d'Avignon cette année où on n'a pas d'Avignon, et leur livre est vraiment...
C'était chez...
C'est une somme, je crois que c'est Gallimard.
Oui, c'est Gallimard.
C'est Gallimard,
oui.
Voilà. Et troisième conseil, pour avoir un petit peu de cet Avignon qui n'aura pas lieu, Jean Bellorini répète son spectacle sur un texte de Valère Novarina. Le spectacle qui aurait dû être dans la cour d'honneur cette année. Et ils font une captation fin juin qui sera diffusée sur France Télévisions le 25 juillet, si je ne me trompe pas.
Ah, donc voilà. on aura presque en direct un peu d'Avignon sans Avignon.
Un petit peu d'Avignon sans Avignon. Ça s'appelle Le jeu des ombres de Valère Novarina. C'est une relecture, réécriture du mythe d'Orphée.
Merci Fabienne. Le conseil d'Armel.
Alors un livre pour changer, mais un livre qui reste dans le droit fil de tout ce que nous avons dit. C'est un livre qui s'appelle Profil perdu d'Antoine Vitesse. Un petit livre écrit par notre confrère qu'on aime tant, Jean-Pierre Leonardini de l'Humanité. Il avait écrit ce livre quelques mois après la mort d'Antoine Vitesse, il y a 30 ans. Il a été republié par les éditions Le Clos Jouve. C'est un tout petit livre, mais qui rappelle bien ce qu'était Antoine, l'émotion. Alors évidemment, à la fin, ça se perd un peu parce que Jean-Pierre Leonardini travaille à l'Humanité, donc il est dans la mouvance communiste. Et Antoine Vitesse, ancien secrétaire d'Aragon, était entré au Parti communiste, mais n'a jamais été un vrai militant. Et il a quitté le parti au moment de l'Afghanistan. Et on sent que c'est dur à avaler pour un vieux militant. Voilà.
Vitesse par Leonardini. Le conseil de Fabienne.
Alors, deux spectacles qu'on peut voir sur France Télé. Le joli spectacle, le monologue très émouvant qu'avait fait Raphaël Personnaz. Vous n'aurez pas ma haine. Un texte d'Antoine Léris et qui raconte la mort de sa femme Hélène au Bataclan, qui est un très joli spectacle. Et celui de très émouvant, bouleversant spectacle, et celui de que Christine City a écrit, joue dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli, qui raconte les démêlés d'une artiste dans un foyer de jeunes. Il n'avait pas prévu qu'on allait gagner, et c'est aussi un spectacle assez bouleversant.
Et ça, c'est
sur le malaise.
Où, ça,
sur France Télé.
À France Télé.
Voilà.
Très bien. Le conseil de Jacques.
Alors, deux choses. Un livre sur l'histoire du festival de Ramatuelle, un livre de Jacqueline Franjoux, qui est son actuelle directrice. Et puis...
C'est au Cherche Midi.
C'est au Cherche Midi. Mais j'aimerais revenir aussi sur
d'ailleurs,
un spectacle...
D'ailleurs, c'est un livre où j'ai vu une photo de vous, Jacques, mais avec Fabrice Lucchini et Yasmina Reza.
C'est vrai. C'est pour ça qu'il en parle.
Quand vous mettiez en scène...
Le veilleur de nuit.
Le veilleur de nuit.
Oui, c'est vrai.
Et vous êtes... sous un arbre, encadré par ces deux...
Sous un arbre
je peux vous dire que je me porte bien à l'époque.
Voilà. Mon Dieu, donc c'est une raison suffisante pour lire le livre de Jacqueline Franjou sur le festival de Ramatuelle.
Non, et puis je voulais vous dire que le spectacle dont j'avais parlé la dernière fois, La femme de ma vie, jouée par Robert Plagnol, en direct, qu'on peut voir sur Zoom, eh bien, ce spectacle va se donner tout le mois de juillet, donc ça c'est bien, mais c'est devenu payant, il faut payer 10 euros pour s'inscrire, mais 10 euros on peut le regarder à plusieurs, donc ça coûte vraiment pas très cher. Ouais.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Fabienne Darge, Armel Héliot, Fabienne Pascaud, Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et aujourd'hui, au théâtre de l'Alliance française à la technique, il y avait, je les remercie, Christophe Smiez, Stéphane Foulon, Charles Cérès, pour une réalisation signée Xavier Pistuggia. Dans une semaine, on parlera de films. Et je vous dis à samedi et dimanche prochain sur France Inter, évidemment.